2015, vous créez et vous jouez un spectacle, Fukushima Work in Progress, une légende japonaise, qui revient sur la catastrophe de Fukushima de mars 2011. Pourquoi vouloir revenir plusieurs années après sur cette catastrophe ?
Parce qu'avant, j'avais écrit un spectacle qui s'appelait « Comment épouser un milliardaire ?» qui parlait déjà des catastrophes capitalistes. Et je trouvais que Fukushima, c'était vraiment l'apogée de ce genre de problème, c'est-à-dire une entreprise privée qui fait une énorme connerie et qui derrière n'a comme réponse que « je suis désolée ». Et ça m'avait beaucoup marqué parce que le jour de la catastrophe, peut-être 2 jours après, j'étais chez Tadei. Et je me souviens, il y avait plein de gens autour de la table qui parlaient d'économie, de trucs. Et c'était vraiment le moment où on ne savait pas si le Japon serait rayé de la carte ou pas. C'était vraiment ces 3 jours là où il y avait quand même un énorme doute sur ce qui allait se passer à Fukushima. Et je les entendais et je me disais, mais quelle désinvolture. Enfin, ils parlent de voitures, d'économie et tout. Et je les trouvais complètement à l'ouest, en fait, par rapport à la gravité de ce qui était en train de se passer là-bas. Et donc, c'est un moment que j'ai vécu de façon un peu forte, parce que moi, j'étais obsédée par ce qui se passait là-bas, très inquiète et hyper triste. Et je voyais que des gens autour de la table en France étaient complètement détendus. Et je me disais, mais comment c'est possible, quoi, de pas être empathique avec ce qui se passe là-bas. Et puis en 2013, il y a le théâtre de l'Avant-Scène qui m'a demandé une création. Donc comme j'avais toujours ça dans la tête, je leur ai proposé d'écrire sur Fukushima.
Vous allez très, très loin pour palper un peu ce qui se passe là-bas. Vous abordez beaucoup d'aspects techniques carrément, on aborde beaucoup de détails sur la gestion quotidienne. Comment s'est fait votre documentation ?
Alors, il y avait les rapports quotidiens de l'IRSN qui étaient disponibles. Ils étaient même au début bicotidiens, enfin c'était 2 fois par jour qu'il y avait les rapports sur l'accident. Donc ça, c'était super intéressant comme document. Et ensuite, il y a eu le rapport d'enquête qui a été publié sur un site. Ils ont publié la traduction du rapport complet. Et voilà, j'ai lu ça, j'ai lu Michael Ferrier aussi, le livre de Matsumura, qui est une des bonnes sources d'inspiration. Et voilà, oui, j'ai beaucoup aimé me plonger. Ben, en fait, ce qui était intéressant, c'était de comprendre. J'avais très peur du nucléaire et donc essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'était un peu prendre en... Enfin, c'était apaisant, en fait, pour moi.
Vous avez été surprise par l'improvisation et l'imprévision de la catastrophe ?
Surprise, c'est pas le mot. J'ai pas été surprise, j'ai plutôt été effarée, en fait, parce que quand ils vont chercher les batteries de voiture sur le parking de la centrale pour les brancher au réacteur, c'est vrai que c'est fou. C'est fou, c'est drôle, c'est tragique, c'est ridicule. Enfin, c'était intéressant parce que quand je trouvais des détails, pour moi, c'était vraiment des pépites parce que je savais que le théâtre allait naître de toutes ces choses. Et c'est là aussi que j'ai eu l'idée d'en faire un spectacle avec des jouets. Parce que finalement, c'est des gros jouets, mais ça n'en reste pas moins des jouets avec tout ce que ça comporte d'imprécision, de non-fonctionnement, de panne. Enfin, la catastrophe de Fukushima est très intéressante parce que elle est comme celle de Lubrizol, comme tant d'autres, quoi. Mais en plus spectaculaire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça a touché un peuple extrêmement organisé, extrêmement hiérarchisé. Et donc, il y avait aussi tout cet aspect humain qui était intéressant parce que déjà, ils étaient persuadés que tout allait fonctionner parfaitement. Donc cette façon de penser a été néfaste pour eux finalement. Et puis aussi, c'est là qu'on voit le ridicule des trucs hiérarchiques parce qu'une fois que bah, y a plus d'électricité, que les bâtiments sont éteints, en ruine, il n'y a plus de hiérarchie qui fonctionne. Quand les gens à Tokyo disent qu'est-ce qui est prévu dans le plan d'urgence, et que les gens de Fukushima répondent, mais rien, un problème avec le cœur du réacteur n'a jamais été envisagé. Il n'y a rien de prévu. Oui, ils disent, qu'est-ce qui est prévu pour l'évacuation du personnel en cas de fusion du cœur? Ils disent, bah non, rien, il n'y a rien qui est prévu, parce que vous nous aviez dit que ça ne pouvait pas arriver.
C'est ça qui apparaît aussi, c'est le paradoxe qu'il y a entre les compétences théoriques, les connaissances des procédures, voilà, et ce qui apparaît factuellement une fois que la crise advient. Et on le voit très bien avec les échanges téléphoniques originels qu'on voit en direct dans le spectacle, qui montrent la panique totale, malgré les compétences techniques et les procédures largement théorisées, la panique totale qu'il y a aussi bien sur place qu'au siège total, au siège social de PEPCO. Comment expliquer cette déconnexion avec la réalité?
Ben, je pense que le système technicien, ça c'est un peu des pensées qui viennent de Ellul, de Charbonneau, des penseurs de la technique et de la décroissance. Le système technicien est trop complexe, il ne peut pas fonctionner. Donc en fait, on fait des protocoles, on fait des bibles de fonctionnement, des machins et tout, mais en fait, ça c'est trop complexe. Il y a ce qu'ils appellent le facteur humain, le putain de facteur humain. Mais en fait, c'est mettre ça sur le facteur humain, c'est assez dégueulasse. Mais ces systèmes-là ne peuvent pas fonctionner. Quand on pense que les centrales nucléaires, il suffit qu'elles manquent d'eau ou d'électricité pendant 3h30 pour qu'il y ait une catastrophe nucléaire majeure, on voit bien que la menace, elle est beaucoup trop grande. Parce que qui peut être sûr qu'il y aura toujours de l'électricité, qu'il y aura toujours de l'eau en abondance pour refroidir les centrales? C'est impossible d'être sûr de ça.
Parler de la catastrophe de Fukushima, c'est une manière de vous projeter, d'avoir en ligne de mire le nucléaire en France et éventuellement une catastrophe à venir?
Bon, ben, je touche un palmier, mais j'espère évidemment pas que ça va arriver. La dernière image, c'est un paysan japonais qui s'adresse aux Français. Et cette image, elle m'a glacée. Parce que ce qu'il dit est absolument terrifiant. C'est vrai qu'on est le pays le plus nucléarisé avec le Japon. On se dit, ça leur est arrivé. Comment, enfin, on ne peut pas être sûr qu'il n'y aura jamais de problème. Et puis nous, ça, enfin, d'ailleurs, il y a des problèmes tout le temps. Enfin, je veux dire, en France, là j'ai écouté un reportage sur France Inter, je crois, et à propos de la Loire, et la Loire est un fleuve nucléaire, il y a des rejets radioactifs dans la Loire, et ça, c'est pas dit, quoi. Il y a de la radioactivité partout en France, et on ne connaît pas les effets.
Vous avez une inquiétude particulière sur le nucléaire, du coup. Est-ce que vous êtes documenté à ce point-là? Est-ce que ça a amplifié, modifié certaines perceptions, intuitions que vous avez?
Disons que c'est moins terrifiant parce que c'est plus concret. Disons que je sais comment fonctionne une centrale nucléaire. Et je sais ce qui peut déconner. Et non, ça m'a pas fait plus peur. Ça m'a plutôt fait... Non, je sais pas. Mais en général, les spectacles que j'écris sur des sujets qui me touchent, une fois que je les ai écrits, je me libère un peu quand même de tout ça. Donc non, ça ne me fait pas plus peur. Ça me fait pas plus peur que Lubrizol, que le problème de la pollution de l'air, de l'eau, des pesticides. Enfin, je veux dire, c'est des... On nous fait quand même vivre dans un univers qui est pollué et dangereux, et c'est assez dégueulasse.
On se rend compte dans votre parcours que vous avez un souci de les rendre accessibles. Très souvent, vos productions, vous représentez gratuitement des théâtres ou des soirées de lecture, vous transmettez gratuitement. Est-ce que c'est cela, être un artiste engagé aussi?
Je ne sais pas du tout. Je suis contre l'argent et du coup, j'aimerais bien que tout soit gratuit, qu'on trouve un autre système. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre de la gratuité et de la solidarité et des liens humains le plus possible dans ma vie et dans ma pratique. C'est plus pour partager des choses. Je pense que quand on comprend les choses, on a moins peur, on se sent moins bête, on se sent moins faible. Donc c'est pas pour éclairer les autres, c'est plus pour vivre des moments de partage, de communion, de solidarité, des moments de vie, quoi.
Vous êtes particulièrement touché par le devenir du monde actuel, ou, enfin de la France au moins, ou du monde actuel. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des projections sur les moyens de mettre en place une société meilleure?
Ben, moi, je trouve que les ZAD, ce sont des endroits très intéressants. Le mouvement des soulèvements de la Terre qui a lieu en ce moment, et je le trouve passionnant parce qu'ils essayent de reprendre physiquement des terres aux industries et de remporter des victoires. Donc c'est très enthousiasmant, très motivant, très réconfortant. C'est-à-dire qu'on y va, on protège la Terre, et puis après on fait ça avec un autre lieu, et puis un autre lieu, et puis un autre lieu, et ça c'est vraiment génial. C'est rassurant de se dire qu'on peut encore arracher des espaces, même si les batailles sont précaires, puisque après ils reviennent quand même à la charge tout le temps. Pour moi, ce qui se passe en Amazonie, ça se passe aussi en France, et y a le sol français à défendre. Et donc voilà, ouais, je trouve que le mouvement des ZAD, il est génial. Bah, je pense qu'il y a une bataille culturelle à mener pour que les gens croient qu'on peut gagner. Donc moi, c'est plutôt ça que j'essaye de faire, c'est de transmettre les victoires, de transmettre l'histoire des batailles aussi, et de montrer aux gens que, bah, qu'un autre discours est possible et qu'une autre histoire est possible.
Très bien, merci Audrey.
Merci. Vraiment.